BFM Business présente. BFM Entreprise. Croissance, la stratégie. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BFM Entreprise, l'émission qui voyage dans les entreprises tout au long de la semaine. Vous savez, le lundi, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance et le jeudi de transmission. La croissance, c'est le thème du jour. Croissance d'un groupe qui a 150 ans et qui travaille avec le monde entier. Comment bâtir aussi, on va se poser cette question, un champion français, ça demande du temps et une très bonne stratégie. On va en parler avec mes invités. Philippe Maillard, directeur général du groupe APA. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ravi de vous avoir sur ce plateau. Et Anne Denuel qui est DRH du groupe APA.
Bonjour.
Merci Anne d'être également avec nous. BFM Entreprise, la croissance. C'est parti.
Le témoignage.
Philippe, vous allez déjà nous présenter ce que fait le groupe APAV. C'est un groupe spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même.
Voilà, tout à fait, ça fait plus de 150 ans qu'on accompagne des clients entreprises de toute taille ou des collectivités de toute taille dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, les risques humains, les risques environnementaux, numériques, climatiques. Et on le fait au travers de missions ou d'activités d'inspection, de contrôle, de certification, de formation professionnelle également. Et progressivement, depuis un groupe qui est né en France, eh bien nous nous sommes développés à l'international et avec une forte accélération ces dernières années dans le cadre du plan stratégique qu'on a élaboré fin 2020.
C'est une entreprise qui a 150 ans.
Oui, 150 ans, donc qui a vu les évolutions technologiques.
Les normes.
L'évolution des normes, les différentes crises mondiales ou locales, et qui finalement est aussi représentée aujourd'hui par près de 19 000 on va dire, techniciens, ingénieurs, professionnels, qui sont pour la grande majorité des ingénieurs et des techniciens. On parle d'électricité, on parle de mécanique, on parle de pression, on parle de rayonnement, on parle de carbone, d'environnement, de biodiversité. On est vraiment sur des thématiques, sur les techniques qui que l'on traduit dans nos activités, encore une fois, pour faire en sorte que nos clients puissent exercer leur métier finalement en toute sécurité. C'est ça notre finalement ce que l'objet et l'enjeu de nos activités.
Quand vous parlez de vos clients, qui sont-ils et où se trouvent-ils ?
Alors nos clients, c'est le client industriel de la PME de la PME TPE au grand groupe. C'est évidemment les activités de service, c'est aussi les collectivités locales. Et je dirais aujourd'hui, on est quasiment à 50-50% d'activité entre la France et le reste du monde.
Le reste du monde, en 150 ans, il a dû bien se diversifier.
Oui, il s'est beaucoup diversifié, il s'est beaucoup accéléré depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est 15% d'activité en Amérique du Nord, par exemple. C'est 25% en dehors de la France, donc en Europe, donc en Italie, en Espagne, en Scandinavie. Mais c'est également au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Donc, de plus en plus, une clientèle internationale de clients locaux et aussi de clients internationaux qu'on accompagne dans nos différentes géographies et qui est l'un des enjeux pour nous d'être de cette internationalisation. L'internalisation, c'est à la fois des activités locales, avec des équipes locales qui répondent aux enjeux du pays dans lequel on est établi, avec ses réglementations, je dirais ses clients. Et c'est aussi, dans certains domaines, l'accompagnement de grands groupes français historiquement, mais pas que aujourd'hui, dans leurs activités en dehors de France.
Oui, on va voir que les stratégies sont différentes effectivement au fil des années. Votre histoire à vous avec le groupe APAV, commence quand ?
Elle commence tout début 2020, donc juste avant le Covid,
ouais.
Où après 25 ans passés dans un groupe d'environnement, le groupe Suez, je peux le mentionner,
oui.
J'ai rejoint le groupe APAV avec cette mission de porter finalement le développement et l'accélération du développement du groupe. Ce qu'on a fait au travers d'un plan stratégique validé fin 2020 et qui a fait que quand on regarde en 2026, eh bien on a doublé de taille, près de 2 milliards d'activités, qu'on a internationalisé nos activités, on a doublé notre portefeuille d'activités internationales qui représente aujourd'hui près quasiment 50% de notre activité. Et puis le groupe est devenu un peu plus connu, plus reconnu pour ses missions et puis on a l'ambition de continuer parce qu'on est dans un marché en croissance. Un secteur dans lequel on a besoin d'entreprises qui aident à bâtir de la confiance. Parce que nos missions, finalement, c'est aider dans un monde qui a besoin d'assurance, qui a besoin de confiance, par nos missions, encore une fois, à donner cette confiance dans le bâtiment dans lequel on vit, dans lequel on travaille, dans le produit qu'on utilise. Voilà, c'est ça l'enjeu de nos métiers. Et c'est un marché en croissance et c'est assez important.
Vous êtes aussi un phare dans la nuit de la réglementation et des normes qu'on sait très bien faire en Europe. Donc évidemment, c'est pour ça que je disais que vous êtes un champion français. On va y revenir, bien sûr. Anne, on va parler de l'expansion des troupes, de comment on recrute, de comment on va recruter toutes ces équipes d'ici 2030 dans ce plan. C'est Amplify 2030 dont vous parlez,
voilà, donc,
ce plan
On est sur des plans stratégiques à 5 ans. On a fini le premier qui s'appelait Boost, fin 2025, en ayant coché, je dirais, tous nos objectifs, pas que des objectifs économiques, des objectifs aussi de rayonnement, de notoriété, de motivation des collaborateurs, au travers d'enquêtes d'engagement. Et puis, on a lancé notre nouveau plan, début 2026, s'appelle Amplify. Ça doit nous mener, d'ici 2030, à continuer, finalement, à amplifier nos actions de développement, d'accompagnement de nos clients, des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouveaux services, d'accélération par des acquisitions complémentaires. Et puis évidemment, le tout en continuant à avoir des collaborateurs motivés, engagés, parce que c'est notre première ressource. Ce sont nos collaborateurs qui portent les expertises que l'on met tous les jours à disposition de nos clients.
On va voir dans un instant quels profils sont recherchés, parce que c'est vrai que c'est toute l'or de cette activité et d'en trouver les bons profils, en effet. Mais vous parliez d'acquisition. Comment on fait, quand on veut se développer comme ça, ce choix entre s'internationaliser, racheter certains concurrents, trouver des entreprises qui pourraient effectivement compléter le groupe? Comment on fait ces choix-là? Est-ce que ce sont des opportunités et on surveille ce qui se passe autour de nous, ou est-ce que ce sont des plans, est-ce que c'est finalement prémédité tout cela?
Alors oui, parce qu'il y a quand même une stratégie, au sens premier du terme. La stratégie, elle consistait à être plus acteur dans les différentes géographies du monde pour être plus équilibré en termes d'activité. Les différentes géographies ne fonctionnent pas au même rythme économique,
oui.
Et donc c'est bien d'avoir un portefeuille d'activité équilibré. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, comme je l'ai indiqué, c'est d'accompagner des grands clients internationaux dans leurs activités. Ils nous connaissent en France, on est réputé en France, ils disent « accompagnez-moi en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Asie ». Donc ça, c'était l'enjeu d'internationalisation. Ensuite, on met en œuvre un plan d'action qui est de se faire connaître et de trouver, dans un marché qui est en consolidation, de trouver des opportunités de croissance externe. Ce que l'on a fait, puisque en 5 ans, on a fait à peu près une trentaine d'acquisitions de toute taille, de la petite entreprise à 1, 2, 3 millions d'euros d'activité, jusqu'à 300 millions d'euros aux États-Unis, au Canada, et qui viennent compléter par des expertises, par un portefeuille de clients, notre activité. Donc, il y a la stratégie, il y a une ambition, puis après, il faut la mettre en œuvre. Et puis, c'est ce qu'on a fait, voilà, avec des équipes qui sont en charge de porter ces projets d'acquisition, puis de gérer l'intégration. Enfin, je dirais une panoplie relativement classique de développement. Développement organique des produits, des offres, du commerce, et en complément, des acquisitions dans un marché qui est en consolidation et qui présente, selon la formule consacrée, des opportunités de consolidation.
Oui. 30 acquisitions en 5 ans, ça paraît énorme vu de l'extérieur. On fait des erreurs, on fait des faux pas dans ces cas-là. Il y en a à la fin, ça ne prend pas, ça arrive.
Ça peut arriver. Ouais. Je dois reconnaître que nous n'avons pas eu ces écueils-là aujourd'hui. On peut être parfois déçu de la performance économique des entreprises que l'on achète. Mais je crois que ce qui est important, c'est dans les opérations de due diligence, dans l'évaluation de ces cibles, déjà de regarder l'ADN des sociétés que l'on veut acquérir, la complémentarité de leurs activités, les expertises que ça va apporter. Et après, je dirais, on a un regard, il faut regarder la performance économique, elle peut être plus ou moins forte par rapport à un business plan, mais globalement, ça revient quand même à la qualité, finalement, de l'évaluation des sociétés. Et plus on évalue correctement, moins on a de désagréments.
Anne, vous êtes au cœur donc de la stratégie d'embauche qui a été mise en route par ce groupe APAV. C'est 2800 postes qui seront à pourvoir d'ici combien de temps?
Alors, 2800 postes chaque année d'ici 2030. Donc, on grandit très, très vite. Oui. Chez APA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société de services. Et Philippe l'a dit, ce que nous vendons, ce sont les expertises des hommes et des femmes du groupe. Donc, effectivement, dans un groupe en croissance qui s'internationalise, les RH sont au cœur du réacteur.
Oui.
À la fois sur la partie recrutement, où il faut être très réactif. Et on est présent dans 60 pays. Donc, toute la force, c'est l'agilité, proche des bassins d'emploi, main dans la main avec les managers, pour identifier très vite les expertises dont on a besoin et les intégrer pour les faire rentrer dans notre groupe et prendre leur fonction, leur mission. Et puis, on a aussi l'enjeu du développement des carrières, hein, parce qu'une fois qu'ils rentrent, il faut qu'ils restent.
Idéalement.
Sur des postes d'experts, où il faut leur donner des challenges. La diversité de nos missions sont des challenges pour eux, et également toute une panoplie de formations qui leur permet d'avoir une carrière riche, où ils peuvent changer de métier en cours de route, dans leur parcours, et ça, c'est une richesse.
Il y a une partie en CDI, et il y a une bonne partie en alternance, justement. C'est-à-dire que vous en prenez aussi en début de carrière.
Exactement.
Pour les prendre vraiment au tout début de la formation et en faire des bébés à pave.
Alors, on recrute sur tout type de profil, à la fois des débutants, mais également des collaborateurs plus expérimentés. On a besoin, il n'y a pas de spécificité.
Oui.
On recrute beaucoup d'alternants, effectivement. C'est une richesse. On les accompagne. Certains, d'ailleurs, ont commencé comme inspecteurs débutants et ont continué leur carrière. Certains, aujourd'hui, après plusieurs années, sont directeurs des opérations sur certains périmètres, après être passés par différents types de missions. Donc, effectivement, recruter des alternants, ça nous permet aussi d'attirer des collaborateurs, des profils qu'on n'aurait pas forcément recruté autrement.
Dans ce gros vivier, ce gros recrutement auquel vous allez procéder, vous nous cherchez des profils particulièrement formés ou vous préférez des profils intéressants humainement que vous allez faire évoluer justement à votre image, à l'image du groupe ?
Dans un recrutement, les deux sont très importants, bien entendu. Dans tout le parcours d'intégration, enfin, qui va de l'identification, le parcours de recrutement et le parcours d'intégration, ça va être tout le challenge. Bien entendu, la technique est importante, mais le savoir-être fait aussi partie des points qu'on va regarder bien spécifiquement. Et l'adéquation avec l'ADN du groupe, c'est très important. Mm-hmm. Surtout dans un groupe en croissance, il faut vraiment, pendant toute la phase de recrutement, qu'on s'assure évidemment des compétences techniques, mais ce n'est pas ça le plus compliqué, c'est le savoir-être et l'adéquation avec notre ADN.
Philippe.
Oui, le savoir-être parce que nos inspecteurs, nos ingénieurs passent la plupart de leur temps chez les clients, dans les usines, dans les sites industriels, à travailler à leur côté sur leurs projets d'investissement. Et donc ce savoir-être, il est important.
Il faut s'adapter à chaque client, en réalité.
Et oui, il faut comprendre, il faut écouter, il faut être capable aussi de tenir, je dirais, ses lignes métiers. Parfois, on se retrouve dans des situations où on doit expliquer que des installations ou des projets ne sont pas conformes ou ne sont pas en conformité avec des enjeux de sécurité des travailleurs. Donc, il peut y avoir parfois des moments un peu compliqués à gérer avec des clients. Donc, ce savoir-être sur lequel on parlait Anne, il est important. Et le savoir-faire, encore une fois, on a la base de départ où on l'acquiert au fur et à mesure des missions et de la formation interne qui est un grand enjeu sur lequel nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie.
Vous parliez beaucoup vous aviez beaucoup d'ingénieurs tout à l'heure dans ce groupe. C'est très recherché en France, les ingénieurs. Comment on fait pour se rendre attractif en tant qu'APAV ? Alors oui, il y a ces perspectives de carrière, cette évolution, le fait de pouvoir évidemment aller travailler à l'étranger, mais comment on les attire, ces talents finalement de l'entreprise ?
Alors déjà, APAV, c'est près de 160 ans d'histoire au service de la sécurité des biens et des personnes. C'est une mission qui a du sens pour nos collaborateurs, qui vont mettre leurs compétences au service de quelque chose qui a du sens et qui a de l'impact. Après, il y a effectivement les parcours, les expertises, et il y a un dernier point qui est très important. on est dans un environnement très bienveillant et convivial. Et ça, ce sont nos nouveaux embauchés qui nous le disent. On a une enquête onboarding. Mm-hmm. Et ils remarquent souvent ce côté, on se sent attendu, accueilli. Il y a vraiment un environnement très convivial qui est important et qui fait aussi la différence. Alors après, comment on va les identifier? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des équipes de recruteurs qui travaillent main dans la main avec les managers pour aller identifier. Alors, de diverses manières, hein. Ça va être via les réseaux, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup via les réseaux sociaux. La cooptation aussi, qui est très, très importante. Mmh. Et il faut savoir que nos collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Hein. Vous n'avez qu'à voir le nombre de posts LinkedIn que nos collaborateurs publient tous les jours pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la cooptation est un très, très bon moyen de recruter. Et puis après, il y a aussi la mobilité interne. Aujourd'hui, 20-25% de nos postes sont pourvus par de la mobilité interne. Donc ça aussi, c'est une richesse au sein du groupe. Philippe,
vous allez participer à des projets emblématiques. C'était la Tour Eiffel pour nos anciens. Ça a été la reconstruction de Notre-Dame. C'est de travailler sur des projets des projets ferroviaires, des projets urbains, des projets de construction des bâtiments dans votre ville ou dans votre village. C'est aussi d'expliquer que ces missions qui font du sens, vous êtes au cœur de projets, au cœur de grandes réalisations, au cœur de la protection finalement globale. Et c'est vrai que c'est un sens particulier avec des diversités de missions qui sont assez importantes. Ça fait partie des atouts de recrutement.
C'est intéressant parce qu'on parle souvent, on dit souvent que l'Europe et la France n'ont pas de champion. Là, on a un champion quand même dans les normes, la réglementation, la certification. Vous dites que ce sont des métiers qui ont du sens. Ça, ce sont des arguments pour recruter ces jeunes, pour les faire venir dans le groupe.
Je dirais qu'aujourd'hui, la capacité d'un groupe à se présenter de façon globale, à expliquer que on n'est pas juste français, qu'on a des activités dans différents pays, qu'on peut avoir des missions d'expertise qui peuvent faire qu'on puisse se déplacer en France, en Outre-mer ou dans d'autres pays étrangers, qu'on puisse évoluer, ça fait partie de l'attraction ou de l'attrait d'un groupe. Et puis après, je me permets juste de dire, c'est que il faut faire attention sur la partie réglementation normes. Parfois, il n'y en a pas et néanmoins, les entreprises elles-mêmes souhaitent être accompagnées dans la protection, dans l'évaluation. Donc, finalement, on est un acteur de confiance sur ces enjeux de sécurité.
Parlez-moi un peu d'argent quand même. Là, on est en train de recruter sur des postes. Est-ce que être ingénieur dans ce domaine-là, ça permet, on l'a dit, de faire carrière, ça, effectivement, de partir à l'étranger? Ce sont des postes qui sont quand même bien rémunérés. C'est un secteur qui est bien rémunéré, Anne?
C'est un secteur qui est rémunéré. Enfin, les ingénieurs sont effectivement rémunérés selon les bassins d'emploi, les métiers. Il y a différents types d'ingénieurs à différentes spécialisations. Ce serait difficile de vous donner des chiffres.
Bien sûr.
En fonction d'un pays à un autre, d'un bassin d'emploi à un autre. Mais oui, en fait, on peut avoir une bonne, une évolution de carrière avec une rémunération qui va progresser aussi en fonction de cette évolution de carrière.
Est-ce qu'on a un sujet féminisation dans ces métiers-là? On en a souvent.
À votre avis?
Bah oui, chez les ingénieurs, évidemment. Il faudrait beaucoup de femmes, il faudrait des femmes. On est à combien, là, actuellement,
Alors, en global, on est aujourd'hui à 27%.
Ah, vous êtes plus haut que certaines entreprises.
On est à 27% de femmes dans la globalité. On est à 26% de femmes managers.
Oui.
Mais ça reste un enjeu. Donc, ça fait partie aussi de nos actions de discrimination positive pour encourager un public féminin à aller vers ces métiers. Oui, comme beaucoup d'entreprises dans le domaine des services techniques ou des services industriels, si je puis utiliser cette expression, on pâtit parfois du manque d'intérêt. Donc, à nous de le développer. L'apprentissage est un bon levier. Aussi, la mise en avant de femmes qui ont réussi.
Notre patronne,
la France est dirigée par une femme, de montrer aussi qu'on est capable de prendre des responsabilités managériales. Enfin, ça fait partie un peu du panel que l'on met en place, je dirais comme beaucoup d'entreprises, pour essayer de promouvoir cette diversité dont on a bien besoin.
Oui, effectivement. Anne, pour compléter.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce sujet-là, il n'y a pas de recette miracle. Hein. C'est un ensemble d'actions qu'il faut mener au quotidien, ne jamais lâcher. Il y a des actions qui sont plus long terme. Hein. On a tout un travail auprès des écoles.
Bien sûr.
Se faire connaître des jeunes ingénieurs. Parce que ce n'est pas forcément un métier que tout le monde connaît. Donc, c'est important de leur donner envie. Donc, on a des actions spécifiquement vers les écoles. Et puis après, tout au long de la carrière, où les équipes RH et les managers sont très sensibilisés à les pousser dans leur carrière. Et puis, bien sûr, le dernier levier, le recrutement de collaboratrices plus expérimentées, où là, effectivement, on va avoir une attention particulière à avoir toujours dans nos shortlists des CV de femmes et de suivre le recrutement. Mais encore une fois, pas de recette miracle, un ensemble d'actions et ce sont des actions qui payent à long terme.
Sur ce sujet, on dit même souvent dans cette émission qu'il faut aller voir, et on a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, les élèves dès le collège, et on commence hein, à mettre
tant
d'entreprises au contact des élèves et des jeunes filles pour leur montrer qu'effectivement ces métiers d'ingénieurs notamment sont aussi faits pour elles, on y fait carrière et c'est absolument passionnant. Je me posais cette question en écoutant ce que vous disiez Anne sur la culture d'entreprise, sur le fait que vos collaborateurs sont devenus les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Comment on fait pour garder cette culture alors qu'on grandit à cette vitesse-là, qu'on a des acquisitions très très nombreuses, que ce groupe finalement grandit en permanence, n'a pas forcément de phase de stabilisation pour s'habituer. Comment on fait pour que tous les collaborateurs se sentent finalement dans un groupe homogène ?
C'est un enjeu. C'est un enjeu au-delà des biais culturels ou des différences culturelles qui font aussi la richesse d'un groupe international.
Ouais.
Le point qui me paraît important de préciser, c'est que dans les opérations de due diligence sur les acquisitions, l'analyse de l'ADN de l'entreprise, de l'attention aux salariés, de l'attention aux enjeux de santé et sécurité, de l'attention à l'éthique de travail, ça fait partie des grilles de lecture.
Mm-hmm.
Et des entreprises qui ne cocheraient pas ces cases, qui ne cocheraient pas les cases de ils sont alignés avec les valeurs du groupe, on les écarterait ou on les écarte. D'accord ? Donc il y a cette grille de lecture qui est au moins aussi importante que l'activité en tant que telle ou que la performance économique. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Bon. Et puis après, il y a toutes les actions autour de l'engagement des collaborateurs, de la notoriété, de la reconnaissance. Anne peut donner quelques exemples, mais ça fait partie des enjeux. Mais voilà, sur la partie acquisition, cette grille de lecture, elle est importante. Et je prends juste l'exemple de l'acquisition en Amérique du Nord. Mmh. Nous sommes très vite rendu compte, fin 2024, c'est la plus grosse du groupe, on s'est très vite rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs. Et donc c'était important avant toute autre chose.
Dans le recrutement, comment vous faites pour garder cette direction-là, Anne ?
C'est dans le process de recrutement justement ouais. qu'on s'assure de l'adéquation culturelle.
Ça prend un peu de temps.
Et les managers le sentent très rapidement si effectivement c'est quelqu'un qui partage ce qui fait notre force. Et puis c'est le vrai enjeu, que ce soit de la croissance externe ou les recrutements qu'on va faire, c'est de maintenir ce qui fait notre âme. Parce qu'en grandissant, on peut aussi perdre notre âme. À la fois sur le cœur historique, mais également sur les entreprises qu'on va acquérir. Et c'est tout l'équilibre qu'il va falloir trouver entre s'adapter, parce qu'en fait, on est quand même beaucoup plus grand qu'on ne l'était, sans perdre la proximité, la convivialité, des éléments forts comme la sécurité, comme l'éthique, qui font notre socle, notre ADN. Et je trouve que la manière dont on le mesure le mieux, finalement, c'est la fierté d'appartenance, quelque chose qu'on mesure dans notre baromètre tous les 2 ans, et de s'assurer que finalement, en grandissant, nos collaborateurs sont toujours aussi fiers d'être à PAV. Mmh. Je trouve que c'est un bon élément de mesure de savoir si on a bien intégré nos acquisitions et si nos nouveaux collaborateurs sont également fiers d'être à PAV.
Un des éléments très importants aussi quand on achète beaucoup, quand on acquiert beaucoup, qu'on recrute beaucoup, c'est de garder une stabilité financière. Vous avez 2 minutes pour me dire comment on fait cette formule magique, Philippe.
Bon, bah écoutez, on a un actionnariat entre une association qui représente l'histoire et qui représente la vision à long terme,
oui.
Association qui veut évoluer en fondation d'entreprise, et puis un fonds d'investissement qui est minoritaire. Les deux accompagnent depuis 5 ans la croissance croissance, le développement du groupe, avec des taux d'endettement qui restent très très raisonnables. Et donc voilà, on a une équation économique aujourd'hui qui tient totalement la route et qui nous permet d'envisager, je dirais, avec ambition. Et vigilance, mais avec ambition, finalement, les développements futurs. Ça fait partie de la poursuite de notre trajectoire de développement en France, mais aussi beaucoup à l'international, dans la vaste étendue de nos métiers.
Voilà comment on crée un champion français, européen, de la maîtrise des risques techniques. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce plan dans BFM Entreprise. Philippe Maillard, directeur général du groupe APAV, et Anne Denuel, DRH du groupe. Émission à retrouver à 12h30. Vous pourrez également la voir en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprise, croissance, la stratégie sur BFM Business.